Bonjour, je suis Stéphane Faure, vous êtes sur la chaîne de podcast Eutimia et je vais vous présenter dans ce podcast quelques points pour faire face à des difficultés qui peuvent être récurrentes quand on découvre la pleine conscience et parfois même quand on la pratique depuis un certain temps. Je vous souhaite la bienvenue, à tout de suite. Bonjour à tous. Je vous retrouve pour un podcast après quelques temps de silence qui va porter cette fois-ci sur les problèmes qu'un pratiquant de pleine conscience rencontre quand il se lance dans cette méthode. La première question qui peut arriver, c'est qu'est-ce qui se passe par exemple, comment lutter contre le sommeil dans un scan corporel par exemple. C'est une question qui revient souvent. Parce que quand on s'entraîne au scan corporel, je ne sais pas pour vous, mais ça arrive fréquemment, on a tendance à s'endormir. Il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs options dans cette situation. La première, c'est qu'on peut parfaitement choisir de s'endormir dans un scan corporel. On a le choix. On peut faire un scan corporel pour s'endormir, ou on peut faire un scan corporel pour se réveiller, dans la perspective justement d'un processus éveillant. Donc ça va être la première des choses à bien paramétrer son intention. Est-ce qu'on fait un scan corporel dans une perspective de relaxation, pouvoir se poser, pouvoir se retrouver, ou bien si on fait un scan corporel pour stimuler son attention point par point dans le corps. Malgré tout, il arrive que malgré le fait qu'on clarifie son intention, parfois la fatigue nous rattrape et c'est pas si grave que ça. D'une certaine façon, il faut se décomplexer par rapport à ça. Le fait qu'on s'endorme peut être le fait que justement il y a des tensions et que le fait que ces tensions se relâchent nous mettent dans un état de fatigue, d'endormissement. On peut tout à fait reprendre le scan corporel là où on l'a laissé ou là où la guidance nous met. En fait, il faut comprendre que le scan corporel est juste un entraînement qui nous permet de focaliser notre attention sur des courts moments dans chacune des parties du corps, avec un type d'attention particulière, sans jugement de valeur, etc. Donc, chaque micro-moment où l'attention se porte sur une partie du corps est un moment où on peut s'entraîner à la méditation en tant que tel. C'est comme si vous aviez, durant un scan corporel de 40 minutes, des centaines de petits moments où vous pouvez porter votre attention délibérément, au moment voulu, sans jugement de valeur, etc. Et c'est ce processus-là qui nous intéresse particulièrement. Alors si durant ce processus, on s'endort à des moments, eh bien, c'est pas si grave que ça. On peut aussi, au bout d'un moment, si on est confronté à la torpeur, choisir de faire le scan corporel assis. Je sais que c'est décrié comme conseil. Certains sont vraiment attachés à la posture allongée du scan corporel. Néanmoins, si on veut avoir un peu de temps éveillé pendant le scan corporel, qu'on est vraiment en proie à la torpeur, on peut s'asseoir sur une chaise ou on peut s'asseoir sur le sol. Ce qui m'amène à la deuxième aspect de ces questions fréquemment posées, c'est la posture. Dans les pratiques de pleine conscience et dans le monde de la méditation a priori, la posture est importante, notamment la posture du dos. Il y a différentes méthodes qui nous apprennent à avoir un dos droit. Le problème des fois, c'est qu'avec ce mot, on a l'impression qu'il faut avoir un dos tendu. On dit un dos droit, ce qui mettrait un peu une sorte d'injonction, qu'il faudrait avoir une sorte de lance à la place de la colonne vertébrale. Mais en fait, c'est plutôt un léger étirement qui partirait de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Traditionnellement, on parle de 5 points clés. La position des jambes, la position des mains qui sont sans agitation, posé dans le giron sur les genoux. La position du dos droit, sans contrainte. La position du menton légèrement rentrée sans que la tête baisse vers l'avant. Et puis les yeux, fermés ou mi-clos, suivant les types de méditation qu'on peut faire. Et dans l'approche de la pleine conscience, on ne va pas faire de ces 5 points un challenge. C'est-à-dire que si on a besoin de s'asseoir sur une chaise, on s'assoit sur une chaise. Si on a besoin de s'allonger, on s'allonge. Si on a besoin de rester debout, justement peut-être pour garder une forme d'éveil, on va rester debout. Et si on veut s'asseoir traditionnellement sur le sol pour avoir une meilleure assise, un sentiment de stabilité, eh bien c'est aussi possible. Il faut faire avec nos limites de manière assez pragmatique. Et on peut bouger. La seule chose qu'il faut éviter, c'est que le dos ne s'enroule vers l'avant, un peu comme un escargot, et que la région de la poitrine s'écrase. Là, c'est pas spécialement recommandé. Donc veillez au moins à avoir le niveau de vos épaules au-dessus du niveau des fesses. Ce qui permettra d'avoir au moins le plexus solaire, le sternum, bien ouvert vers l'avant. Que vous soyez assis sur une chaise ou assis sur le sol, c'est important. Ensuite, en fonction de nos limitations, de nos problèmes de dos, il faudra compenser le plus intelligemment possible afin de tendre vers le fait que chacune des vertèbres s'empile l'une sur l'autre, vers l'idée d'avoir une sorte de flèche qui partirait des fesses. Et la pointe de la flèche, c'est les deux épaules et le sommet de la tête. Donc, si on peut préserver cette posture, ne serait-ce qu'un temps, y revenir ne serait-ce que quelques secondes durant son temps de méditation, c'est excellent. Donc voilà les points de la posture. Ne jamais en faire un problème, c'est la chose la plus importante dans les pratiques de mindfulness. Un troisième point. Il arrive parfois qu'on ait du mal à respecter le temps des méditations telles qu'elles sont proposées dans les programmes de pleine conscience. Et pour nous, les enseignants, c'est un casse-tête parce que quand on propose 40 minutes, on voit assez trop long, donc on propose des méditations de 20 minutes. Puis quand on voit les propositions de 20 minutes, on voit que les gens font 10 minutes, etc. L'idée du temps consacré à la méditation, je pense, doit se mesurer sur la régularité. Et du coup, c'est vrai que c'est un travail un peu d'autodiscipline, mais mieux vaut faire peu que pas du tout. En conséquence, les périodes où vous vous engagez sur un programme de pleine conscience, mieux vaut faire ne serait-ce que 5 minutes de méditation plutôt que de ne rien faire sur une journée. C'est cette régularité qui va payer. Et le fait de garder ce lien avec votre engagement initial de s'engager dans la pratique va créer les conditions pour qu'éventuellement, certains jours, vous puissiez faire plus. Donc, là, mon conseil, c'est vraiment, même si vous vous asseyez que 3 minutes immobile, à prêter attention à votre souffle, et que, bon, de façon métaphorique, vous sentez des aiguilles pousser sur le siège, ou que vous avez vraiment quelque chose d'autre à faire tout d'un coup qui arrive comme impérieux, eh bien, vous avez quand même fait ces 5 minutes. Donc, gardez cette régularité est pour moi le point essentiel, indépendamment du fait que vous puissiez faire ou non les méditations prévues par le programme de pleine conscience dans lequel vous êtes engagé. Un autre point qui revient souvent, c'est que quand on commence à méditer, on a plein de pensées, de créativité, de choses à faire, etc. Et on me demande des fois, mais est-ce que c'est bien de noter sur un papier ces choses, ces pensées, etc. Il y a deux temps dans la méditation. Le temps où votre attention se focalise, apprend à revenir sur son support, se défocalise, l'exercice, etc. Et le temps où l'expérience se manifeste. Ça peut être une expérience d'agitation, une expérience de stabilisation, de paix, de joie. Quand il y a de l'agitation, on peut considérer ça comme une expérience de méditation. C'est un aspect de clarté. On perçoit tout le mouvement mental que dans des situations habituelles, on ne percevrait pas de cette façon-là. Et il s'agit de les observer sans s'y attacher. Si on suit ses pensées, même si ça paraît très fascinant et très créatif, très prolifique, on n'est plus tout à fait dans le processus de la méditation. On peut être dans un processus de créativité en pleine conscience, mais c'est autre chose. Aussi, mon conseil est de vraiment distinguer les deux moments de la pratique. Quand vous choisissez un moment pour pratiquer, quelles que soient les choses fascinantes qui peuvent s'élever dans votre esprit, je vous invite vraiment à rester dans le flot de la pratique sans suivre, sans s'identifier le mieux possible qu'on peut à toutes ces pensées. En revanche, quand vous êtes confronté à une difficulté ou que vous avez envie de réfléchir sur un problème à l'aide de la méditation, vous pouvez choisir de vous poser pendant 5 à 10 minutes. Et au fur et à mesure ensuite que les pensées vont s'élever, vous pouvez vous donner l'opportunité de suivre ça, de revenir à la méditation, puis de revenir dans vos réflexions, en gardant une posture assise stable, relativement. Et ça peut être un moyen de pouvoir justement approfondir une réflexion avec les limites d'un côté de rester dans un processus créatif et non pas de s'inquiéter ou de tourner en rond, de ressasser. La limite est parfois très ténue. Et de l'autre côté, la limite de ne pas chercher forcément un résultat, une solution. Ne vous faites pas prendre par l'idée d'attente. C'est vraiment une sorte de brainstorming que vous vous proposez de vous donner à ce moment-là. On n'est plus dans la méditation, mais on n'est pas tout à fait hors de la méditation non plus. Voilà. Ensuite, vous avez quelques difficultés parfois qui ressortent souvent dans les groupes de pleine conscience autour du yoga, autour des mouvements en conscience qui sont inspirés du yoga. Parfois, dans certains programmes, on utilise plus des mouvements qui viennent du Qigong. Et là, il y a maintenant beaucoup d'indications qui sont données sur le fait de respecter ses limites, d'adapter les exercices. Une fois que le programme est terminé, même si vous n'êtes pas forcément très yoga, très qigong, le fait de pouvoir garder des mouvements en conscience, même très simples, dans votre quotidien, m'apparaît vraiment comme une très bonne chose. Aussi, si vous pouvez juste arriver à garder, à mémoriser un ensemble de pratiques qui puissent durer 5 à 10 minutes par jour ou faire une petite session de temps en temps qui soit possible de faire en mouvement en conscience, cela m'apparaît vraiment comme très utile. Maintenant, les programmes de mouvement en conscience dans les programmes de pleine conscience sont très 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 adaptés. Donc, vous devriez pouvoir arriver, quel que soit votre état de santé, à trouver les mouvements appropriés. Et ce mouvement du corps, il est important pour retrouver l'équilibre du mental. À chaque fois, on se sert du mental pour apaiser le corps, c'est un peu ce qu'on fait avec le scan corporel. Et après, on se sert du mouvement du corps pour retrouver l'apaisement de l'esprit. Donc, le processus, la pédagogie de la pleine conscience est un tout. Et ça peut être intéressant, plutôt que de choisir ça j'aime pas, d'arriver à aborder cette cohérence avec le plus de sagesse possible. Et même si on ne se retrouve pas toujours dans ces mouvements en conscience, les garder quand même à minima dans sa besace de pratiquant de pleine conscience peut vraiment aider sur le long terme. Voilà, donc j'ai passé quelques points qui me reviennent souvent comme questions. Il pourrait y en avoir d'autres. Peut-être si vous me donnez des suggestions, on pourra reprendre cette présentation un peu plus tard. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne de podcast si ce n'est pas fait. Et j'attends avec impatience vos retours. Si vous avez d'autres points récurrents comme ça sur lesquels vous vous interrogez, cette chaîne de podcast peut être vraiment le lieu de pouvoir répondre à vos questions. Merci.